Alors, on va lire Hébreux, chapitre 4, versets 1 à 13. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui la promesse a été faite n'y sont pas entrés, à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne leur parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors, si on fait un bref résumé de ce qu'on a vu des semaines passées, on se souvient que les Hébreux, c'était des chrétiens qui étaient des Juifs, qui sortaient du judaïsme et qu'ils étaient sous une très forte pression sociale parce que les autres Juifs qui étaient encore dans le judaïsme les accusaient de vouloir abandonner la loi, les accusaient que Jésus n'était pas le prophète, qu'il n'était pas Dieu. Alors, il y avait toutes sortes de pressions sociales et eux, une exclusion, les Juifs avaient pris les Juifs qui étaient demeurés dans le judaïsme, avaient exclu de la synagogue. Une exclusion de la synagogue, pour eux, c'était vraiment quelque chose de très difficile socialement parce qu'ils ne pouvaient plus avoir de relations avec les autres Juifs. Ils ne pouvaient plus avoir du commerce avec eux. C'était vraiment une très, très grave chose que d'être exclu de la synagogue. Et les Juifs qui étaient devenus des chrétiens avaient cette menace-là qui les attendait. Alors, pourquoi l'Épître aux Hébreux a été écrite? C'est parce que l'auteur cherchait à faire comprendre aux Juifs que de vouloir retourner dans le judaïsme, c'était pure folie. Et il le fait en démontrant différentes choses. Alors, dans le chapitre 1, l'infinie supériorité de Christ a été puissamment démontrée sur les prophètes. Parce que dans le chapitre 1, on avait vu que Christ était infiniment supérieur aux prophètes qui l'avaient précédé. Il était infiniment supérieur aux anges et était infiniment supérieur à la personne la plus importante du peuple juif, Moïse lui-même. Donc, dans le chapitre 1, l'emphase avait été mise sur la déité ou la divinité de Jésus-Christ. Eux voulaient retourner vers le système sacrificiel ancien. Tous ceux qui ont lu leur Bible au complet savent que, dans le fond, retourner vers cela, c'était comme le symbole. C'est comme s'ils avaient voulu retourner vers le symbole plutôt que sur la réelle accomplissement par Christ des choses que ça représentait. Donc, chapitre 1, parfaite déité. Et dans le chapitre 2, les Juifs avaient des difficultés parce qu'ils croient, à cause que Jésus avait été crucifié et qu'il était devenu un homme, eux, quand il est venu sur la terre, ce qu'ils voyaient devant eux, c'est juste un homme. Alors, ils n'avaient pas compris que le Jésus était à la fois homme et Dieu. Alors, il y avait, là, dans le deuxième chapitre, l'idée que l'auteur avait développée, c'est que le fait que Jésus était humain n'enlevait absolument rien au fait qu'il était le Messie et qu'il était le Sauveur qui avait été prophétisé dans l'Ancien Testament comme devenant leur Messie. Alors, sa parfaite humanité avait été développée, surtout dans le chapitre 2. Donc, si vous voyez, chapitre 1, chapitre 2, divinité, humanité, trait d'union entre les deux, il voulait leur faire comprendre que n'abandonnez pas Jésus-Christ qui est à la fois Dieu et homme pour retourner dans votre système de judaïsme qui était simplement un symbole des choses qui étaient à venir. On avait vu aussi que dans le plan que je vous avais donné au début, que l'Épître aux Hébreux comprend plusieurs avertissements, des avertissements solennels. Autrement dit, un avertissement solennel, c'est que tenez compte de ce que je viens de vous dire, parce que si vous n'en tenez pas compte, vous allez faire une erreur monumentale, et non seulement une erreur monumentale, mais une erreur à salut. Alors il leur démontre dans le chapitre 2, qu'il y avait, au début du chapitre 2, qu'il y avait un danger réel de ne pas s'attacher à la parole de Dieu. Et on va voir que dans le développement de toute l'Épître aux Hébreux, il y a 5 avertissements et les avertissements sont toujours placés à des endroits précis après qu'il y a eu une idée précise aussi de développer. Alors, au début du chapitre 2, c'était que le Christ avait été démontré comme étant pleinement Dieu. Alors, il disait, faites attention de ne pas vous attacher à la parole de Dieu qu'on avait vu dans le chapitre 2, versets 1 à 4. Et il y avait un autre danger qui les guettait. Tous les dangers qui sont développés dans l'Épître aux Hébreux, c'est tous des dangers qui ont un rapport avec nos relations avec la parole de Dieu. Donc, il leur a donné le premier danger, ne pas la croire. Et il y avait un autre danger qui les guettait, c'était le danger de ne pas l'incrédulité. T'as beau dire, ça c'est la parole de Dieu, mais si tu la lis et tu ne crois pas ce qu'elle dit, tu peux t'attacher à ça. OK, je t'attache à ma Bible, mais je la lis, mais chaque fois que la parole dit quelque chose, j'obéis pas. L'incrédulité. Alors, la semaine dernière, ce qu'on a vu dans le développement de la leçon, c'est que les Juifs, il y avait 600 000 Juifs que le Seigneur avait libérés de l'Égypte, il avait jugé Pharaon par les plaies d'Égypte, il avait laissé sortir le peuple, et ils ont été combien de temps dans le désert? 40 ans dans le désert. Normalement, la route de l'Égypte à la terre promise, ça aurait été supposé être quelques jours. Pourquoi ils ont tourné en rond pendant 40 ans dans le désert? C'est parce qu'ils étaient désobéissants, ils remettaient complètement en question la présence de Dieu au milieu d'eux. Puis chaque fois qu'ils rencontraient un problème, plutôt que d'aller devant Dieu et de dire, Seigneur, on manque d'eau. Le Seigneur, pourquoi il faisait ça? Il faisait ça pour les éprouver. Parce que après tous les miracles qu'ils avaient vus lors de la sortie d'Égypte, le fait de manquer d'eau dans le désert, là, ça aurait été une affaire de rien. Il avait juste à dire à Dieu, « Seigneur, tu vois bien, on manque d'eau. Faites quoi? » Mais non, c'est pas ça. Il disait à Moïse, « On retourne à l'Égypte parce qu'on manque d'eau. » Alors vraiment, après avoir été témoin des nombreux miracles que le Seigneur avait faits pour eux lors de leur sortie d'Égypte, plutôt que de se confier au Seigneur, plutôt que de prier le Seigneur de régler leurs problèmes, ils avaient de l'incrédulité. Et on se souvient que ceux qui étaient ici la semaine dernière, les 600 000, ils ont sorti du désert, ils ont sorti, c'est-à-dire de la terre de l'Égypte, ils ont tourné en rond pendant 40 ans dans le désert, et le Seigneur a permis ça parce que justement, à cause de leur incrédulité. Et combien il y en a qui ont rentré dans la terre promise qu'on a vu la semaine dernière? Sur 600 000 personnes, 2, Josué et Caleb. Ça posait une question un petit peu difficile, parce qu'on se disait, ça se peut-tu que le Seigneur fasse une promesse à un peuple, et que sur l'ensemble du peuple, il y en a seulement 2 qui ont compris, qui ont obéi au point où Dieu dit, « Oui, vous autres, vous allez rentrer dans la terre promise. » J'avoue que ça pose un problème sérieux. Si on veut savoir... Il faut d'abord retourner dans l'Ancien Testament et aller voir comment Dieu avait exprimé sa promesse et regarder si le fait qu'il ait fait entrer deux, est-ce que ça l'impliquait qu'il a manqué à sa promesse? C'est ça la grande question. On se dit, il a fait une promesse à 600 000 personnes, comme de quoi qu'il les emmènerait vers la terre promise, puis il a permis qu'il y en ait deux qui rentrent. Est-ce que c'est parce qu'il a manqué à sa promesse? On se rapportait à penser ça. Alors là, on va voir qu'est-ce qui fait, comment on peut expliquer ce problème-là. Alors, on va aller dans Exode chapitre 6, versets 6 à 8. Vous n'avez pas besoin de tourner nécessairement, vous pouvez le faire si ça vous tente, mais j'ai tout écrit les versets, alors je vais vous les dire. Exode chapitre 6, versets 6 à 8. « C'est pourquoi, dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. » Et ceux qui ont lu le livre de l'Exode, on sait les 10 plaies d'Égypte, tout ce que le Seigneur a fait vivre à Pharaon pour qu'éventuellement il laisse partir le peuple. Alors les grands jugements, c'est ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Et dans le verset 7, il dit « Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je, écoutez bien, je vous ferai entrer dans le repos que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. » Une grosse promesse. Allons un petit peu plus loin, verset Exode 19, versets 5 et 6. Et là, on comprend un petit peu la promesse, mais c'est une promesse conditionnelle. Il faut comprendre qu'elle est conditionnelle, parce que si on ne comprend pas qu'elle est conditionnelle, on se dit, Dieu a fait une promesse, puis il n'a pas tenu ses promesses. Si on va dans 19, Exode 19, versets 5 et 6, le Seigneur dit, « Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » On va aller un petit peu plus loin dans Exode. Exode 23, versets 20 à 22. Ici, le Seigneur il dit, « Voici, j'envoie un ange devant toi. » Quel était l'ange que le Seigneur envoyait devant le peuple d'Israël? Jésus, la théophanie de Jésus-Christ. Une apparence. Alors il dit, « Voici, j'envoie devant toi, un ange devant toi, pour te protéger en chemin, le chemin de où? Partir de l'Égypte, aller jusqu'à la terre promise. » Il dit, « Je t'envoie un ange pour te protéger en chemin, et pour te faire arriver au lieu où j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. » Et voici encore une fois la condition qui est répétée. « Et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne te pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. » Voyez-vous, si on ne comprend pas le fait que Dieu a fait une promesse à son peuple, mais que la promesse était conditionnelle à l'obéissance dans le déplacement de l'Égypte à la terre promise, qu'est-ce qu'il disait? Ça ne marchera pas. Et c'est exactement ce qu'il a démontré. 600 000 personnes ont sorti, puis il y en a 599 998 qui sont morts dans le désert. Et on a vu la semaine passée que le Seigneur utilisait un terme méprisant pour parler de leur corps qui était mort. « Carcasses » en anglais, ça dit. Les carcasses, ils parlent des corps des gens de son peuple comme étant des carcasses. C'était une expression, ça voulait fort probablement dire que ces personnes-là, à cause de leur désobéissance, qu'est-ce que ça démontrait? Ça démontrait qu'ils n'étaient pas des authentiques croyants. Parce qu'un croyant, par définition, ça croit. Et qu'est-ce qu'il a dit la semaine passée? Ils n'entreront pas dans mon repos. Pourquoi? La cause, c'était quoi? L'incrédulité. Continuellement, pendant 40 ans, ils ont été incrédules. Dieu avait
a eu miséricorde d'eux à différentes reprises pour l'eau, pour la manne, pour différentes choses qui se sont passées dans le désert. Et encore là, même dans le désert, souvenez-vous de la manne, les cailles, les oiseaux, là, ils voulaient manger de la chair. Fait que là, Moïse a dit à Dieu, « Voyons donc, Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Ils me demandent de leur donner quelque chose à manger, de la viande, dans le désert. » Il dit, « Oui, vraiment, 600 000 personnes. » Si quelqu'un reçoit, puis il reçoit 10 personnes, il sait combien de viande ça prend. Mais si quelqu'un reçoit, puis il reçoit 600 000, imaginez-vous la quantité de viande que ça prend. Même Moïse, il croyait pas. Il dit, « Ça n'a pas d'allure, ça. » D'ailleurs, il dit, « Inquiète-toi pas, tu vas voir si mon bras est assez long pour aller chercher. » Il a fait venir les cailles. Et ils ont eu une multitude de miracles de cette nature-là dans le désert. Et malgré tout ça, ils retombaient encore dans l'incrédulité. La question qu'on se posait l'autre jour, après la leçon de la semaine passée, on se posait une question. On se disait, est-ce que les 600 000 personnes qui sont sorties, qu'on appelait le peuple de Dieu à l'époque, est-ce que c'est une image de l'Église actuelle pour démontrer que seulement une très infime minorité entrerait dans le repos? Et on se disait, le repos, c'était l'image du ciel. Et je dois avouer qu'on se posait la question, puis je n'ai pas répondu, parce que c'est difficile comme question. Tu te dis, est-ce pourrais-tu que Dieu fasse une promesse à 600 000 personnes, que ces 600 000 personnes-là représentent l'Église moderne, l'équivalent de l'Église moderne aujourd'hui, puis il y en a seulement deux qui sortent? Alors, on va voir un petit peu le développement de ça. On était rendu. Alors, ces versets qu'on vient de lire, Exode 6, Exode 19, Exode 23, nous apprennent que la promesse de Dieu n'était pas absolue et qu'elle dépendait d'une importante condition, celle de l'obéissance. Et il ne faut pas penser qu'elle existait pour le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament puis qu'elle n'existe plus pour le peuple de Dieu dans le Nouveau Testament. Nous aussi, on se doit d'obéir. Si on n'obéit pas, ça démontre tout simplement qu'on n'est pas des véritables croyants et qu'on n'entrera pas dans le repos. Alors, il dit, Dieu accomplit toujours ce qu'il promet. Si vous prenez les Écritures et vous regardez toutes les promesses de Dieu à partir de la Genèse aller jusqu'à l'Apocalypse, toutes les promesses de Dieu sont soit déjà accomplies ou soit qu'ils vont s'accomplir un jour, ça c'est très certain. Dieu ne fait jamais une promesse qu'il n'accomplit pas. On va aller dans Nombre 14, versets 21-23. On va faire des liens, c'est important de les faire avant de commencer l'étude, parce que vous allez voir qu'il y en a des liens. Nombre 14, versets 21-23. « Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire, et les prodiges que j'ai faits en Égypte, et dans le désert, qui m'ont tenté 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. » Voyez-vous, encore une fois, le Seigneur, c'est comme s'il ferait, il recule, puis il dit au peuple, « Voici, j'ai fait cette promesse-là, j'ai fait une multitude de miracles lors de votre sortie d'Égypte, j'ai fait une multitude de miracles dans le désert. » Et qu'est-ce qu'il dit? Ils l'ont tenté 10 fois. Tenter Dieu, ça veut dire que ils ne reconnaissaient même plus que la présence de Dieu était au milieu d'eux. Ils ne reconnaissaient même plus que Dieu avait la puissance de régler quelque problème que ce soit, d'emmener de la viande, d'emmener de l'eau, de régler quelque problème que ce soit. S'ils avaient été croyants, ils auraient, au lieu de se tourner vers Moïse pour acharrier de le blâmer et pour dire à Moïse, « OK, on retourne en Égypte, parce qu'en Égypte, on avait tout ce qu'il fallait. » Il aurait imploré le Seigneur et le Seigneur les aurait exaucés. Puis c'est pour ça qu'ils ont fait. Ça dit, « Ils m'ont tenté 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix. » Qu'est-ce qu'il les avait dit dans le verset Exode 6, Exode 19, Exode 23? « Si vous écoutez ma voix, je vais réaliser ma promesse, mais si vous écoutez ma voix. » Le Seigneur nous fait encore des promesses du repos éternel. Mais le « si vous écoutez ma voix » tient encore. On ne peut pas être des véritables croyants puis ne pas écouter la voix qu'à l'Éternel. Les commandements, la Bible, il y en a qui n'aiment pas ça des commandements. La Bible est bourrée de commandements. Le Nouveau Testament est bourré de commandements. Regardez la quantité de verbes qui sont à l'impératif EZ. Faites ci, faites ça. Il y en a énormément. Il faut que, comme croyant, on se plie à ce que l'Éternel nous demande, sinon on fait fausse route.
Alors, il dit, ils ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et, regardez bien le verset 24, « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. » Les Saintes Écritures nous enseignent que Josué et Caleb entrèrent dans la terre promise. La preuve de ça, preuve scripturaire, c'est pour moi qui l'annonce, c'est Josué 21, verset 43. « C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père, et ils en prirent possession et s'y établirent. » Voyez-vous, après que Josué et Caleb ont sorti du désert, ils les ont fait rentrer dans la terre promise. Il les avait promis un territoire avec des délimitations bien précises dans l'histoire. Et ici, ça nous dit que sa promesse, il l'a accomplie. Voyez-vous? C'est ainsi, Josué 21, Josué, le livre de Josué, c'est la conquête. Hein? Ils sont sortis d'Égypte, sont rentrés dans la terre promise, puis pour rentrer dans la terre promise, il fallait qu'ils fassent des guerres à des nations, des rois puissants, etc. Alors ça dit, verset 21, c'est vers la fin de Josué. Et dans Josué, on apprend que Josué a réalisé la promesse. Mais pourquoi qu'il a réalisé la promesse? Parce que lui, il croyait Dieu. Il croyait que Dieu était capable. Il voyait des affaires, là. Là, le monde a dit, « mais c'est des géants! C'est des géants qui mesurent 8 pieds! On sera jamais capable de les battre! Ils sont bien trop forts pour nous! » Caleb a toujours été animé du bon esprit. Si Dieu m'a dit d'aller les battre, puis si Dieu m'a dit qu'il me donnerait la victoire, il va me donner la victoire. Et il a agi comme ça tout le temps. Alors, il a eu la promesse que Dieu avait faite au peuple d'Israël, c'est réalisée en lui. C'est important de le saisir, parce que sans ça, si on laisse l'impression de la semaine passée, on se dit 600 000 personnes à qui a fait une promesse, puis il n'y en a que deux qui ont rentré. C'est pas fort. Hein? Alors ici, dans le 21, verset 43, c'est ainsi que l'Éternel donna à Israël pas une partie du pays. Tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père, Abraham, Isaac et Jacob, et ils en prirent possession et ils s'y établirent. Preuve que quand Dieu fait une promesse, il la tient, mais cependant, il faut tenir, garder à l'esprit que la promesse que Dieu avait faite au peuple d'Israël était une promesse conditionnelle à leur obéissance. Autre chose qui est importante, c'est qu'on voit à plusieurs reprises dans ce passage-là l'expression « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Où qui est allé chercher ça l'auteur? Dans le psaume 95, l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait référence au psaume 95 au verset 7 à 15 du chapitre 3 et au verset 5 et 7 du chapitre 4. Si on va dans le psaume 95, puis on lit le passage à partir du verset 7 jusqu'au verset 11, vous allez voir que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il a pas été chercher ça n'importe où, là, ils n'entreront pas dans mon repos, parce que ça avait été dit dans l'Ancien Testament. Verset 7, « Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. » Voyez-vous dans le texte aujourd'hui? Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix. Après ça, il dit, « N'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. » C'est le Seigneur qui parle. Il dit, « Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. » C'est pas un petit mot, le dégoût. Là. Quand on dit quelque chose, ça me dégoûte. Juste cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère,
Ils n'entreront pas dans mon repos. C'est exactement là que l'auteur avait pris ces expressions-là qui reviennent, pas mot à mot. C'est un peu comme la même chose que nous, quand on parle des fois, « Ah, c'est écrit dans la Bible, on fait une référence à un passage sans le citer mot à mot. » Ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux connaissait ce passage-là. Il ne le cite pas comme en disant « Où vos pères n'endurcissent comme à Mériba, comme à la journée de Massa. » Mais l'idée est là. Il veut leur rappeler que ces choses-là avaient été écrites dans l'Ancien Testament, que Dieu disait que s'il n'y avait pas d'obéissance, ils n'entreraient pas dans leur repos. Alors, Christ, il y a une autre chose qui reste à faire, supérieur aux prophètes, supérieur à Moïse, supérieur aux anges. Et là, il est rendu avec un autre grand personnage de leur histoire, Josué. Parce qu'après que Moïse est parti, Josué et Caleb sont rentrés dans la terre promise. Ils ont fait des guerres à des nations puissantes pour les sortir, pour prendre la place que Dieu leur avait dit de prendre. Dieu n'a pas dit « Faites-leur la guerre pour le plaisir de la chose ». Dieu a dit « Ce pays-là, je vous le donne, et les gens qui sont là sont rendus au comble de leur péché. C'est la raison pour laquelle, je vous dis, entrez dans le pays, enlevez-les de là, prenez leur place, je vous l'autorise. » C'est Dieu même qui permettait cette chose-là. C'est important de le réaliser. Et là, ils ont réussi à sortir tous ces gens-là par la guerre. Alors, il restait une chose à démontrer au peuple juif qui était tenté de retourner vers le judaïsme, c'est que Christ est aussi supérieur à Josué, qui était le conducteur de la victoire, qui a permis que le peuple rentre dans la terre promise. Chose intéressante, Josué, le nom Josué, dans l'hébreu, c'est Joshua, le même nom que Jésus, Joshua. Et vous voyez-vous l'image? Les choses de l'Ancien Testament, ça vient toujours pointer vers la réalisation et l'accomplissement futur dans le Nouveau. C'est Joshua qui a conduit le peuple hors. Il est sorti du désert, il est rentré dans la terre promise. Et nous, notre Joshua, qu'est-ce qu'il fait? Notre Jésus. Il nous sort du monde pour nous faire entrer dans la terre promise qui est le ciel futur. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux avait le devoir de présenter aux Hébreux que Christ est infiniment supérieur aussi à leur ancien conducteur physique qui était Josué. Alors, Christ est infiniment supérieur à Josué en ce qu'il conduit son peuple dans son repos final, le ciel, alors que la nation d'Israël, à l'exception de deux individus, qui étaient Caleb et Josué, n'entra jamais dans le repos de Dieu. Et vous, le peuple de l'Ancien Testament, n'a que deux qui ont rentré dans le... Pour bien comprendre ce passage, nous devons saisir la comparaison suivante. Et c'est là que je vous dis ce qu'on a parlé hier soir. La nation d'Israël peut se comparer à l'ensemble de la chrétienté de toute dénomination. Prenez l'ensemble là, des 600 000, puis vous pouvez la comparer aujourd'hui à l'ensemble de tous ceux qui portent le nom de Christ. Et là-dessus, il y a les catholiques, les presbytériens, les luthériens, les méthodistes, les noms, tout ce qui existe. Là. On dit que ça représenterait 1 milliard de personnes sur la terre entière actuelle. Alors, l'image du peuple, la nation juive de l'Ancien Testament, on pourrait faire une comparaison avec le Nouveau Testament, mais l'Église aujourd'hui serait l'équivalent de la nation juive de l'époque, mais nous, la nation de Dieu, on dit le peuple de Dieu, on le met entre guillemets, parce que le peuple de Dieu, ceux qui se disent de Dieu ne sont pas tous de Dieu. Et ceux de l'ensemble de cette grande chrétienté-là, Dieu est en train de nous dire que s'il n'y a pas obéissance, s'il y a incrédulité, il va leur arriver la même chose que le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Il y a juste un petit nombre, 2 sur 600 000, c'est un petit nombre, ça. Le Seigneur est en train de te dire que c'est comparable à la grande chrétienté moderne, que sur 1 milliard de personnes qui portent son nom, les catholiques disent qu'ils sont des chrétiens. On entend souvent, des fois, à la télévision, parler des catholiques en disant qu'ils sont des chrétiens. Et toutes les autres dénominations aussi. Qu'est-ce que l'Éternel est en train de nous montrer? C'est que sur l'ensemble de ceux qui professent son nom, seulement un nombre infime sont de véritables croyants. Les autres sont des professants, ils n'ont pas la véritable foi et ils n'entreront pas dans son repos final qui est le ciel. C'est un passage extrêmement important, Hébreux 4, un passage aussi qui est difficile. Quand j'ai lu ça, l'auteur dont je me suis servi pour préparer la leçon, il dit que selon lui, c'est un des passages les plus difficiles à expliquer de tout le Nouveau Testament. Ça te fait tomber sur tes pieds, puis tu dis, oh, un petit peu d'humilité ici, parce que c'est quelque chose de difficile. C'est vrai que c'est difficile. Parce que quand on lit, il y a différentes questions qu'on se pose, puis si on prend pas la peine d'aller chercher nos réponses, à ce moment-là, on comprend pas véritablement le passage. Alors, je vais donner la comparaison. Nation d'Israël, l'ensemble de la chrétienté moderne. Dans la nation d'Israël, il y en a deux qui sont sortis, qui sont rentrés dans la terre promise, qui est une image du ciel. Mais si on compare ça, puis qu'on dit, ça, c'était pas l'ensemble de la chrétienté. C'est l'ensemble de de ceux qui portent le nom. C'est pas l'ensemble des régénérés, là, qu'on pourrait dire. C'est l'ensemble de ceux qui portent le nom. Parce qu'eux autres aussi, ils étaient juifs. Mais qu'est-ce que les Écritures nous apprennent sur les Juifs, à un moment donné? Les Écritures nous disent, ce n'est pas tout Israël qui est Israël. Qu'est-ce que ça veut dire quand le Seigneur nous dit ça? Dans Romains 9, par exemple, il nous dit, et dans d'autres passages, il nous dit que c'est pas tout Israël qui est Israël. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que dans la nation juive de l'Ancien Testament, à l'intérieur de cette nation-là, le Seigneur avait des élus. Ça, c'était Israël. Puis quand le Nouveau Testament va arriver, dans tous ceux qui vont porter le nom de Christ, catholiques, protestants, n'importe quoi, là, tous ceux qui vont utiliser le nom de Christ comme disant que « Oh, moi, je suis chrétien », ça va être exactement la même chose. Le Seigneur a des élus. L'Israël de Dieu, c'est l'ensemble des élus qui avaient chez le peuple juif dans l'Ancien Testament et l'ensemble des élus qui sont dans la grande chrétienté, le milliard de personnes. Mais est-ce que à cause qu'ils portent le nom de Christ, qu'il va en avoir un milliard qui va être sauvé? Non. Et le véritable Israël de Dieu, c'est l'union de ces deux choses-là. Les élus du peuple juif de l'Ancien Testament unis aux élus de l'ensemble de la chrétienté, et tout ça, ça forme le véritable Israël. Et Dieu avait fait des promesses pour Israël. Et la principale promesse, c'est une promesse de repos. Dans la terre promise, ils s'attendaient d'avoir... Mais on sait que les Juifs, même ceux qui sont rentrés dans la terre promise, ils ont continué de mourir. C'était pas le repos, qu'on pourrait dire, idéal, le repos complet. Alors, dans le texte, quand on l'étudie un petit peu plus profondément, on voit qu'il y a trois mentions de repos. Il y a le repos de Dieu au septième jour. Quand Dieu a fait la création, au septième jour, il a dit qu'il entrait dans son repos. On va le voir dans le verset 4. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour, parce qu'il dit, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Il est en train de parler d'une sorte de repos. Dieu a dit, quand il avait fait sa création, le septième jour, il a dit que c'était le repos. Après ça, on fait référence à un deuxième repos, qui était le repos que Caleb et Josué ont fait connaître au peuple quand ils ont conquis la terre promise. Parce qu'il dit quelque part, car si Josué leur eut donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Donc, il y a le repos de Dieu après sa création. Il y a le repos que les Juifs ont connu après leur entrée dans la terre promise. Et il dit, Seigneur, il dit, c'est pas ce repos-là que je veux parler, là. C'est pas le repos du sabbat. C'est pas le repos parce qu'eux autres, il y avait le sabbat. C'est pas ce repos-là dont je parle. Le repos que je parle, c'est pas le repos que Caleb et Josué vous ont donné lorsqu'ils ont conquis la terre promise. Le repos que je vous parle, c'est le repos éternel. Alors, il y a trois formes de repos là-dedans. Juste dans ces 13-14 versets premiers. Et c'est très difficile si on n'arrête pas, si on réfléchit pas. On lit ça, puis on comprend pas, puis on passe droit. Moi, ça m'a beaucoup aidé, l'auteur, je me suis servi pour comprendre un peu plus ce texte-là. Je ne prétends pas que je l'ai vidé de tout son sens, parce que la parole de Dieu, on ne la vide jamais de tout son sens, de toute façon. Alors, pour bien comprendre ce passage, nous devons saisir la comparaison suivante. La nation d'Israël peut se comparer
à l'ensemble de la chrétienté, toutes les dénominations incluses. De la même manière qu'il y avait eu des élus à l'intérieur du peuple d'Israël, Josué et Caleb, il y a maintenant aussi de véritables croyants à l'intérieur de la chrétienté qui professe la foi au Christ. Alors, l'élément qui distingue les véritables croyants de ceux qui professent seulement, c'est quoi? L'obéissance. L'élément qui distingue les véritables croyants de ceux qui professent seulement, c'est l'obéissance. L'incrédulité et la désobéissance est la marque des faux croyants. Alors, ce qu'il est en train de nous enseigner, c'est que même aujourd'hui, dans l'intérieur de la grande chrétienté, ceux qui professent connaître Christ, « Ah oui, je crois en Jésus, moi, regarde sa vie. » Il ment, il vole, il trompe sa femme, il fait tous les péchés du monde. « Ah, mais je crois en Jésus. » Moi, je n'ai vu souvent de ça. Les Écritures nous disent que si tu crois en Jésus, il faut que ta vie reflète l'authenticité de ta foi, par l'obéissance. Par exemple, si tu vas voir quelqu'un qui prétend être chrétien, puis disons que le gars, il fait de l'astrologie, ou la fille, il fait de l'astrologie, puis tu dis, « Viens, si je vais te montrer de quoi. » Tu lui montres le passage où Dieu dit qu'on ne touche pas à ça. Prédiction de l'avenir. Puis il dit, « Oh, non, 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 c'est des affaires du passé, ça, ça marche plus, ça. On le doit faire ça aujourd'hui. » Voyez-vous, désobéissant. Il entend ce que Dieu dit, il ne veut rien savoir, il continue dans son péché. Ça, c'est un exemple. Ben non, tu peux lui dire, oh, tu n'as pas le droit d'aller voir les filles danser nues dans un club. Oh, mais voyons donc. Mais le dimanche, je vais à la messe, comme on dit. Ben ça, c'est pas de la véritable foi. Croire en Jésus, ça l'implique l'obéissance, ça l'implique de croire ce que Jésus dit. Et quand il nous donne un commandement, ça l'implique que l'on applique dans notre vie ce qu'il nous commande. Sans ça, ce n'est pas de la véritable foi. C'est une fausse foi et c'est très dangereux. Dans ce passage, il est primordial de distinguer les différentes catégories de repos. On les a nommées, mais on va les réviser une deuxième fois. Le repos de Dieu après la création, dans le verset 3 et 4. Le repos d'Israël lorsqu'ils prirent possession de Canaan, versets 7 et 8. Et le repos de sabbat réservé au peuple de Dieu dans le verset 9. C'est au repos de la troisième catégorie qui est invité l'authentique croyant. C'est le repos de la destination finale, le ciel. Parce qu'il nous dit, dans le texte, on le relit tantôt, il dit, si il y aurait eu leur repos quand ils sont rentrés dans la terre promise avec la conquête de Josué et de Caleb, pourquoi je vous parlerai d'un autre repos, d'un autre jour? Il leur parle de d'autres choses. Il veut qu'ils prennent conscience que c'est pas le sabbat qui est leur repos, que c'est pas le rappel que Dieu a créé le monde, puis au bout de ces jours, il a dit, c'est le jour de mon repos. Il veut qu'ils comprennent que c'est pas le fait que Josué et Caleb ont conquis la terre promise. Ça leur a donné une certaine forme de repos, mais c'était le repos terrestre, physique, temporel. Il est en train de leur parler d'une autre sorte de repos, le repos éternel, le ciel. Et il leur dit que autant dans l'Ancien Testament, ceux qui ont désobéi, qui ont été incrédules, n'ont pas rentré dans le repos, c'est la même chose pour la grande chrétienté d'aujourd'hui. Ceux qui prétendent qu'ils appartiennent à Christ, qui prétendent qu'ils croient en Christ et qu'il n'y a pas d'obéissance, ils n'entreront pas, eux non plus, dans le repos éternel. Voyez-vous? Très important de saisir ça. Parce qu'on peut faire la même erreur que le peuple juif dans l'Ancien Testament et croire que parce que Dieu nous a promis, qu'on se fiche sa promesse, puis nous, on n'a rien à faire. On n'a pas d'obéissance à faire à Dieu. C'est Christ qui nous conduira vers la destination finale. Et ça, c'est intéressant de le savoir. Mais il implique et exige l'obéissance. C'est pas quelque chose qui est à prendre ou à laisser. Donc, on va regarder les trois premiers versets. Le repos de la conversion. L'entrée dans le repos de Dieu ne peut se faire sans l'authentique régénération et la vraie conversion impliquant de se tourner vers Dieu et de se détourner du péché par la repentance. Qu'est-ce que les Écritures nous enseignent? Les Écritures nous enseignent que le Père de toute éternité a choisi un nombre précis et immuable d'hommes et de femmes dans lequel il a décidé de les placer en Christ.
Et Christ est venu sur la terre, s'est incarné dans une chair d'homme. Et sur la terre, il a accompli deux choses à notre place. Il a d'abord accompli, reçu la punition qui aurait dû être la nôtre à notre place. Donc, il a subi le châtiment qui aurait dû être le nôtre à notre place. Et autre chose, Dieu exigeait que chacun d'entre nous ait accompli la loi ou le décalogue ou les 10 commandements, appelez-le comme vous voulez. Il exigeait qu'on l'ait accompli à la perfection dans toutes ses dimensions. Pensée, parole, action, et ne jamais omettre quoi quelques commandements. Tu sais qu'on parle des péchés de pensée, parole, action, omission et même péché secret. Le Seigneur, lorsqu'il est venu sur la terre, il a accompli la loi de son Père à la perfection et encore là notre place. Quand on comprend, le salut, c'est une œuvre de substitution. Christ s'est substitué à nous pour prendre la punition que nous aurions dû avoir. Et cette punition-là n'était pas une petite punition, c'était d'être plongé vivant dans le lac de feu pour l'éternité. Il a subi l'équivalent de la punition qu'on aurait dû subir. Et il a aussi accompli à la perfection les exigences que Dieu demandait pour qu'on vive en sa présence. Donc, la parfaite obéissance au commandement. Parfaite, ça veut dire que tu n'as jamais manqué une seule fois, là. Ni en pensée, ni en parole, ni en action, ni en omission. Ni même un péché secret. Christ a fait ça sur sa terre, quand il est venu sur la terre, il a accompli à la perfection les exigences que Dieu demandait. Alors, c'est une quand on lit dans le verset 1, une conversion, ça l'implique une crainte de Dieu. Verset 1, remarquez le premier mot. Craignons donc. Il y a des versets des Écritures qui nous disent de craindre Dieu et il y a des versets des Écritures qui nous disent de ne pas craindre Dieu. Est-ce que c'est une contradiction? Non. Dans certaines circonstances, il nous dit de craindre. Dans certaines autres circonstances, il nous dit de ne pas craindre. Quand il s'agit de notre marche chrétienne, de s'en aller vers le ciel, il nous dit « crains Dieu ». Dieu a parlé, Dieu a donné des commandements, Dieu a donné des directives. Ne pense pas que tu es plus fin, que tu vas passer par-dessus, puis ça va passer. Il faut que tu obéisses. Alors, la première chose qu'il dit aux Juifs, après l'avoir démontré que Jésus était à la fois Dieu et homme, qu'est-ce qu'il leur dit? Après leur avoir dit aussi que, l'avoir rappelé que lui, sur les 600 000, il y en avait seulement deux qui étaient rentrés dans la terre promise, qu'est-ce qu'il leur dit? Premier mot qu'il dit après avoir tout démontré ce qu'on vient de dire. Craignons donc. Ça veut dire qu'il faut craindre le Seigneur. Le Seigneur est un Dieu puissant, est un Dieu avec tous les attributs à la perfection infinie, mais il nous dit, à cause de ça, crains-le. Parce qu'il dit, tandis que la promesse d'entrer dans son repos existe encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Autrement dit, il faut pas que tu aies juste reçu la parole, il faut que tu croies ce que Dieu te dit. Ça implique une conversion réelle et authentique. La crainte de Dieu implique le soin que nous devons avoir envers lui pour lui plaire en toutes choses et la peur de l'offenser. Elle implique aussi la prise de conscience de nos faiblesses, le côté séducteur du péché, les subtilités de Satan et la méfiance envers nous-mêmes. Tout ça, c'est compris dans la crainte de Dieu. Elle implique également la foi en la promesse de Dieu. Si tu crois Dieu, tu vas obéir, tu vas écouter ce qu'il te dit, puis tu vas faire ce qu'il te dit. Elle implique également l'éloignement de toute forme d'apparence du mal. Pas seulement t'éloigner du mal, de t'éloigner de l'apparence même du mal. S'il y a des gens qui doivent faire des affaires, que à leurs yeux c'est mal, tu te dois de t'ajuster pour ne pas être une occasion de chute envers ces gens-là. Faut que dans ta vie, il n'y ait pas rien qui devienne une apparence du mal. Donc, une conversion qui implique la crainte de Dieu, verset 1. Verset 2, une conversion qui implique l'annonce de l'Évangile. Verset 2, qu'est-ce qu'il nous dit? Car cette bonne nouvelle, il parle de l'Évangile. Car cette bonne nouvelle leur a été annoncée, à qui? Au peuple juif de l'Ancien Testament. Il dit, a été annoncée aussi bien qu'à eux. Autrement dit, ce qu'il est en train de leur dire, c'est que ces gens-là avaient entendu l'Évangile, nous aussi on a entendu l'Évangile. Alors, une conversion authentique, ça implique que tu as entendu le véritable évangile de Dieu, pas dans tes conceptions fantaisistes de faire dire à la Bible ce que tu veux, puis de définir le salut selon tes propres termes. L'Évangile tel que décrit dans la parole de Dieu. Et c'est ça l'erreur de beaucoup aujourd'hui dans la chrétienté, c'est qu'on ne prêche plus l'Évangile tel que décrit dans la parole de Dieu. Alors l'Évangile doit être entendu avec foi et avec les oreilles spirituelles. Ce qu'on appelle l'appel intérieur, en théologie, on parle de l'appel intérieur et de l'appel extérieur. Disons que vous me donneriez ce matin la chance d'avoir 1000 personnes dans l'assemblée. Puis tu me dirais, prêche-leur l'Évangile. Je leur prêche l'Évangile, ça pourrait arriver qu'il y en ait 998 qui l'entendent avec leurs oreilles physiques, mais qui n'entendent pas la voix de Dieu intérieure, parce que ce n'est pas l'appel irrésistible du Saint-Esprit. Mais quand quelqu'un entend l'Évangile avec les oreilles spirituelles, quand le Seigneur dit dans l'Apocalypse que celui qui entende, entende. Alors, ce qu'il veut dire, c'est que tu peux entendre avec tes paroles, tu pourrais mettre 1 million, tu pourrais prêcher l'Évangile à toute la terre entière. Si ce n'est pas un élu de Dieu, il n'entendra pas l'appel intérieurement. Alors, c'est ça, l'Évangile doit être entendu avec foi et avec les oreilles spirituelles. Le peuple juif avait entendu seulement par les oreilles physiques et donc sans la foi donnée d'en haut, l'appel intérieur. Donc c'est une conversion qui implique aussi la foi reçue par les élus, car ça nous dit dans le verset Hébreux 4:3, « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Seuls les véritables élus de Dieu pourront véritablement entrer dans son repos. Quand on dit le repos de Dieu, on parle du repos final, du repos céleste, du repos dans le ciel. Ce repos est celui du ciel, notre destination finale. Comparons avec un autre passage du Nouveau Testament. Alors, je vous parlais d'Israël. Là. Vous allez voir, vous allez saisir un peu plus. Romains 9, versets 6 à 9. « Car ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. » Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ça? C'est que ceux qui portaient le nom de Juifs, il y avait uniquement les élus de Dieu à l'intérieur de ce peuple-là, qui étaient des véritables élus de Dieu. Eux, c'était le véritable Israël. Les autres, ils entendaient avec les oreilles physiques, mais n'obéissaient jamais. Incrédulité totale. Il dit, « Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. » Il est en train de dire, c'est vrai qu'ils viennent de la descendance d'Abraham physiquement, les Juifs. Puis il se faisait un honneur de ça quand Jésus est venu. « Nous sommes les enfants d'Abraham. Qu'est-ce que Jean-Baptiste leur a répondu? Je peux faire des enfants de ces pierres. » Autrement dit, deviens pas chrétien parce que ton père était juif et ton arrière-grand-père était un juif. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Dans le sens spirituel du mot, quand il parlait de la descendance d'Abraham, il parlait de Christ. Ceux qui sont en Christ profiteraient de la promesse de Dieu à Abraham. Mais il est dit, en Israël sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, oui, ou. C'est pas la question de la descendance d'un juif qui faisait en sorte que tu étais automatiquement sauvé. Mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Et les enfants de la promesse, c'est ceux que Dieu le Père avait placés en Christ depuis la fondation du monde et qui, à travers l'histoire du développement de l'histoire d'Israël, à travers l'histoire de l'Église, deviendraient les véritables élus que Dieu régénérerait ici et là dans le temps. Et le véritable Israël de Dieu, c'est l'ensemble des élus de Dieu dans l'Ancien Testament avec les Juifs et l'ensemble des élus de Dieu dans l'Église. C'est les deux peuples, ça fait le peuple de Dieu, les élus. Versets 4 à 8, on va parler du repos de la conversion. On a le repos de la concrétisation, versets 4 à 8. Le véritable chrétien doit saisir les différences entre les trois sortes de repos mentionnées dans ces versets. Le repos de la création du monde par Dieu le septième jour. Dans Hébreux 4, versets 4 à 5, il dit « Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour, et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. » Alors, faut faire, il parle de ce repos-là. Après ça, dans Genèse 2, 2, « Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Il veut leur faire prendre conscience que ce n'est pas de ce repos-là que le Dieu parle. C'est sûr que ça pointe vers le repos final de Christ. Et Dieu, après son travail de création du monde, a continué de travailler en providence, en s'occupant de sa création. Dieu a créé ses créatures spirituelles et il continue de s'en occuper en providence après leur création. Il ne bouge pas à cause que il s'est reposé, mais il a continué de s'en occuper quand même. Dans un certain sens, il travaillait. Ce repos par Dieu, le septième jour, signifiait qu'il était pleinement satisfait de sa création, qu'il nous proposait un exemple à suivre, un jour sur sept consacré à l'adoration, et qu'il nous prophétisait par le fait même le futur repos en Christ et était un symbole du repos céleste éternel. Mais il veut leur faire pas conscience parce qu'eux autres, ils avaient été chercher leurs questions qu'ils se reposaient le samedi, le jour du sabbat, et ils prenaient ça à partir de Genèse 2.2. Il veut leur faire prendre conscience, c'est pas de ça que je vous parle. Je vous parle pas du jour du repos du samedi, là. Alors, il fait déjà une distinction. La deuxième, le repos obtenu par ceux qui entrèrent dans le pays promis de Canaan. Hébreux 4, versets 6 à 8. Or, puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Là, il parle de quoi? Il parle que lorsque le peuple est sorti du désert, Caleb et Josué, il les a fait rentrer par conquête militaire dans le pays qu'il leur avait promis. Et Dieu dit, ils n'y sont pas entrés. Donc, la promesse que j'avais faite n'est pas réalisée encore. Après ça, il dit, Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, il parlait aux Juifs de l'époque qui entendaient son message. Aujourd'hui, en disant dans David, de quoi il parle quand il dit en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et là, regardez le verset 8. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Donc, il dit, confondez pas avec le sabbat. Confondez pas avec le repos que Dieu a donné à son peuple par la conquête militaire, temporaire, physique, terrestre. C'est pas ça que je vous parle. Après ça, il continue. Alors, rappelons-nous que seuls Josué et Caleb entrèrent dans la terre promise de Canaan, qui était le symbole du repos céleste éternel. Le reste du peuple juif incrédule et désobéissant moururent dans le désert. Le psaume 95, verset 7, quand il dit « en disant dans David », il fait référence au psaume 95, verset 7, et c'est cinq siècles après le désert. Le psaume 95, il parle de David, et David est arrivé cinq siècles, donc c'est 500 ans après que le peuple est rentré dans la terre promise. Il parle de David, il dit, quand vous lisez comme il faut le verset 7, il dit, « Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David. » Il fait référence au psaume 95, verset 7. T'es en train de leur dire, David, 500 ans après que le peuple était sorti, ils ont rentré dans la terre promise, ils n'avaient pas encore atteint le vrai repos dont moi je vous parle. C'est ça qu'il est en train de leur dire, là. David, 500 ans après la conquête, qui ont rentré dans la terre promise, qui avaient un certain repos, il ne sait pas de ce repos-là que je vous parle. Alors, parce qu'il a dit dans le verset 7, « Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. » 500 ans après, là. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 jours, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Le repos donné par Josué fut un repos terrestre. Et là, on parle du troisième repos. On a dit qu'il y avait trois sortes de repos mentionnés dans le texte. La troisième, c'est le repos céleste, éternel et futur. Celui en Christ lorsque nous serons rendus à la destination finale. Hébreux 4, versets 7 et 8. Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, voyez-vous, le mot aujourd'hui est répété. En disant, dans David, si longtemps après, que, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcez pas. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. » L'expression « Il est réservé » du verset 6 nous instruit sur ceux à qui est réservée l'entrée future dans le repos de Christ, le repos éternel et futur. Les élus seulement. Christ conduira ses élus jusqu'au repos éternel et céleste et futur. Et nous rappelle cependant que nous devons exercer notre responsabilité d'obéir à sa voix et à ses commandements. Sinon, il nous arrivera ce qui est arrivé aux Israélites morts dans le désert. La véritable foi s'exerce dans l'obéissance. Rappelons-nous que le repos promis aux Israélites ne fut accordé qu'à la fin de la conquête. Quand on lit dans Josué 21:43, alors on dit « Car ainsi l'Éternel donna à Israël tout le repos qu'il avait juré de donner à leur père, ils en prirent possession et s'y établirent. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra entre leurs mains. » Verset 45, « De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. » Quand Dieu fait une promesse, ça s'accomplit. Mais il faut comprendre qu'il y avait la condition et qu'ils n'ont pas respecté la condition, donc ils n'ont pas eu ce que Dieu avait promis. Troisième, c'est le repos de la conformation, versets 9 à 13. Le véritable peuple de Dieu, composé des élus de la nation juive et des élus des nations, entreront dans ce que les Écritures appellent ici le repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Mais le vrai peuple de Dieu, c'était les élus à la fois de la nation juive et les élus à la fois de ceux qui sont dans la grande chrétienté. Verset 9, « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. » Et le verset 11, il nous dit quelque chose d'important, « Efforçons-nous d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Autrement dit, tu es en train de te dire, ta marche chrétienne, elle se doit d'être dirigée avec quelque chose. Et il fait référence à la parole de Dieu. On va le voir dans les deux derniers versets. Alors, les Juifs étaient tentés de retourner dans le judaïsme et dans le salut par les œuvres. Comme Christ avait absolument et parfaitement accompli les exigences de Dieu, ces derniers, les Juifs, se devaient d'abandonner cette idée folle et blasphématoire. L'idée d'essayer de gagner son ciel par ses propres œuvres est tellement ancrée dans le cœur de l'homme et le séduit si facilement. Il avait le goût de retourner dans gagner le ciel par leurs œuvres plutôt que de se fier sur Christ. Cependant, nous devons réaliser que Christ a subi la punition que nous méritions notre place et qu'il a accompli parfaitement toutes les exigences de la loi de Dieu, le décalogue ou les 10 commandements, et aussi les lois spirituelles, les lois cérémonielles et civiles pour ce qui est des Juifs, parce que les Juifs avaient certaines affaires que Christ a accomplies aussi. Éphésiens 2, versets 8 et 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » La foi, c'est un don de Dieu. Puis dans le verset 9, il nous le dit dans le Nouveau Testament, on le sait tout ce verset-là, c'est un verset classique, « Ce n'est point par les œuvres, on ne gagne pas nos ciels en faisant des bonnes actions. On gagne notre ciel, on ne gagne pas notre ciel, de toute façon on le reçoit gratuitement par la grâce de Dieu, en réalisant que Christ a subi notre châtiment à notre place, et en réalisant que Christ a accompli la loi à notre place. Tout est par substitution, c'est une importance capitale à saisir, si tu ne comprends pas ça, tu n'as rien compris. » Donc, verset 12, on rentre dans la conformation. Conformer à quoi? Le Seigneur leur donne Quand ils arrivent là, là, parlant de la marche chrétienne, il leur dit, car la parole de Dieu, voyez-vous, là, il parle de la Bible, la place que la Bible va avoir dans ta marche chrétienne. La parole de Dieu est vivante et efficace. Si tu la lis, tu la médites, tu la prends par cœur, et tout ce qu'on peut faire avec, c'est efficace pour combattre ton péché. Plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et moelle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que c'est par la parole de Dieu que Dieu vient nous donner la régénération. Quand on dit de la partager âme et... âme et esprit, jointure et moelle. Les jointures, c'est extérieur, la moelle, c'est intérieur. S'il est capable d'aller à ce point de rencontre-là, c'est vraiment l'idée que Dieu est capable, par sa parole, de nous régénérer. Mais jamais juste par la parole, c'est toujours à la fois le travail de la parole et le travail de l'Esprit de Dieu. Moi, je bien l'image, je compare ça à un instrument. La parole, c'est l'instrument. Si quelqu'un lit sa parole, il n'est pas sauvé, ça peut arriver qu'il ne se passe rien. Mais si Dieu souffle dans l'instrument, là, il va se passer de quoi? Alors, la parole, c'est l'instrument. Le Saint-Esprit, c'est celui qui fait jouer l'instrument. On peut lire la Bible. Quelqu'un pourra lire sa Bible toute sa vie, ne jamais être sauvé. Mais si Dieu souffle, quelqu'un, ça peut être la première fois qu'il la lit. Si Dieu souffle dedans, ça va allumer. Alors, il est en train de nous dire que les Saintes Écritures, c'est nos devoirs de la lire quotidiennement, de l'écouter à tous les cultes qu'organise notre Église locale, la méditer sérieusement, l'étudier régulièrement, la mémoriser fervemment. Ce que nous ne faisons pas dans tous ces domaines est de la désobéissance. C'est grave ce qu'on dit là. La parole écrite de Dieu nous révèle notre entière corruption et la grandeur infinie de Dieu. Elle est parfaite et nous transforme. Ses caractéristiques sont impressionnantes. On vient d'en lire 7. Sa source est de Dieu lui-même. Elle est vivante. Elle est puissante. Elle est efficace. Elle est pénétrante. Elle est régénératrice avec l'aide du Saint-Esprit. Et elle est révélatrice à la fois de la grandeur de Dieu et à la fois de la profondeur de notre corruption. Et dans le verset 13, si vous remarquez, dans le verset 12, on parle de la parole écrite de Dieu. Mais si vous regardez, on dirait que c'est la phrase qui dit « Nulle créature n'est cachée ». Normalement, si on parlerait encore de la parole de Dieu, on dirait « est cachée devant elle ». Là, il dit « Nulle créature n'est cachée devant lui ». La parole, il y a deux sortes de paroles. La parole écrite et la parole essentielle. La parole, Jésus lui-même, on dit de lui sur un de ses titres, c'est la parole. Et là, il veut leur faire prendre conscience que tu ne peux pas rien cacher à Jésus-Christ. Parce qu'il dit, nulle créature n'est cachée devant Christ, devant lui. Mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc, il dit, ta marche chrétienne, oublie pas une affaire. Si tu veux qu'elle marche, faut que tu te suives, faut que tu te laisses conduire par la parole écrite de Dieu. Mais encore plus que ça, n'oublie pas que ta marche chrétienne est visible aux yeux de Christ qui voit tout. Absolument tout. Tu peux pas rien cacher, même pas une pensée. Puis il dit, en plus, c'est à lui que tu vas rendre des comptes. Fait que là, les Juifs avaient été avertis profondément de plusieurs choses. Et il leur dit, faites attention, votre marche chrétienne, si elle est dans la désobéissance, comme vos pères ont eu dans le désert, vous non plus, vous ne rentrerez pas dans le ciel. Parce que vous devez de vous laisser conduire par la parole de Dieu, la parole écrite, la Bible, et vous vous laissez aussi conduire par Christ, la parole essentielle. Parce qu'on parle souvent, dans l'Apocalypse, on dit, son nom était écrit, la parole, on parle de Christ. Christ s'appelle la parole. Et ici, quand on arrive dans le verset 13, on parle, il veut leur faire prendre conscience. N'oubliez pas que Christ est omniscient. Il voit tous vos pensées. Et si vous faites semblant, vous n'avez pas compris ce que je viens de vous dire, lui a compris que toi, tu avais compris et tu t'as refusé. Alors, c'est ça qui est important de comprendre. Et il dit, vous allez rendre des comptes. Alors, ce verset nous rappelle que Christ est le Créateur, qu'il est omniscient, que nous ne pouvons absolument pas lui cacher quoi que ce soit, et que nous devrons lui rendre des comptes parce qu'il est le juge avec un J majuscule. Alors, après des exhortations et des avertissements si clairs, si solennels et si sévères,
Les Juifs se devaient de réagir avec vigueur et renoncer à leur retour au judaïsme et à se confier de tout leur cœur à leur grand Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Ils se devaient de le faire sans hésiter, de façon immédiate et irréversible, en sachant l'identité glorieuse de leur Sauveur. Application première, soyons assurés que Dieu accomplit toujours ses promesses. Cependant, nous devons constamment conserver à l'esprit que c'est à ses élus que ses promesses s'adressent. Méfions-nous comme la peste de l'incrédulité. Deuxième application, le véritable repos ne se trouve que dans la personne et dans l'œuvre de Christ pour ses élus. Nous avons notre responsabilité, celle d'obéir. Troisième application, gardons à l'esprit le rôle essentiel et primordial de la parole écrite de Dieu dans nos vies. Nous instruire, nous conduire, nous nourrir, nous encourager, nous éclairer. Rappelons-nous que Jésus-Christ est omniscient et qu'il est le juge. Répondons en Jésus-Christ. Reposons-nous, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Adorons-le. Amen. Alors, Seigneur, on veut te remercier de ce passage que tu as donné qui est si riche d'instructions. Seigneur, permets qu'on prenne le temps de le méditer, de le comprendre et d'appliquer les leçons qu'il nous enseigne de manière, Seigneur, à ce que nos vies soient transformées, qu'on comprenne que on a notre responsabilité dans le salut, celle d'obéir à ta parole. Nous te demandons en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.